Les Années-Lumière, édition du 6 septembre 2009. Un gratte-ciel de plus de 800 mètres à Dubaï et on pense déjà atteindre le double en Arabie Saoudite. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette première heure, elle commence évidemment en grand, hein, Hugues de Roussan, avec ce sidérant gratte-ciel.
Oui, le Burj Dubaï, la plus haute tour du monde. Mais pour combien de temps, Yannick? On a les connaissances et la technologie pour aller beaucoup plus haut et ça sera chose faite dans quelques années à peine.
Chantal de Srivastava, certains voudraient corriger la nature pour lutter contre les changements climatiques, mais d'autres craignent ces apprentis sorciers.
Et la Royal Society, c'est la vénérable Académie des sciences de Grande-Bretagne, relance le débat cette semaine en publiant un rapport sur la géo-ingénierie au service du climat.
Il y a ensuite le courrier des années-lumière, une curieuse de question sur les ressemblances entre les hommes, les femmes, les singes. Une comparaison curieuse. Puis il y aura la chronique cette semaine. Hervé Fischer va réfléchir sur notre conception de la nature. Deuxième heure, on la commence avec vous, Gaëlle Lucia Berdou, et avec une grande déception quand même.
Y avait-il déjà de la vie sur Terre il y a 3 milliards et demi d'années? Des preuves qu'on avait trouvées dans l'une des plus vieilles roches de la planète sont erronées, disent des chercheurs.
Dommage. Après le petit journal de la science, je vais vous parler d'un très intéressant virage qu'on est en train de prendre en matière de maladies d'Alzheimer et de troubles apparentés. Le virage est, oui, de la prévention. Et pour terminer, Hugues, vous allez recevoir l'auteur de la semaine.
Il s'agit de Marie-Noël Imbert, qui a co-signé avec Niels Tavernier un livre qui s'intitule « Le mystère des jumeaux ». Les jumeaux qui fascinent l'humanité depuis la nuit des temps et qui fascinent toujours.
Mais pour commencer, la hauteur de la semaine. Alors, le 2 décembre prochain aura lieu l'inauguration du plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Dubaï, d'une hauteur de 818 mètres de hauteur. Vous avez bien entendu, 818 mètres de hauteur. L'édifice compte 162 étages. Il a fallu 5 ans pour le construire. 35 000 personnes pourront y vivre et y travailler. Pour réaliser ces travaux dignes des pharaons, il a fallu faire appel à des technologies uniques, dont certaines, Hugues, proviennent du Canada.
Oui, Yannick, à Dubaï, il y a une volonté politique et financière pour réaliser de pareils projets. Mais ce qui manque, ce sont les ingénieurs, les architectes et les spécialistes de toutes sortes. Donc, on va les chercher ailleurs. Et pour réaliser ces travaux, il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de mode d'emploi, il faut tout inventer. Imaginez un gratte-ciel unique par sa taille et sa complexité, 818 mètres de hauteur, 300 mètres de plus que la deuxième tour en hauteur, qui est le Willis Tower à Chicago, qui était connu jusqu'à tout récemment comme le Sears Tower.
Alors, pour réaliser donc ce bâtiment, hein, on l'a dit, 818 mètres, il a fallu trouver de nouveaux matériaux, par exemple, des matériaux capables de résister à l'énorme pression, j'imagine, qui est exercée notamment sur les étages du bas, hein? Oui.
Oui, on a utilisé un béton tout à fait spécial. C'est un béton de haute performance, 5 fois plus résistant que le béton qu'on utilise dans la fabrication des maisons.
Oui.
C'est un béton qui est fabriqué à partir de matériaux qu'on retrouve sur place, comme le sable du désert. On prend également un ciment de haute résistance et on y ajoute deux ingrédients, des cendres volantes qu'on retrouve dans les centrales thermiques et aussi de la fumée de silice qui provient de la production de silicium. Alors, cette recette a été conçue à l'Université de Sherbrooke. On va écouter Kayat Kamal, qui est professeur titulaire au département de génie de l'Université de Sherbrooke.
La première génération des BHP au béton haute performance était développée il y a à peu près 15 ans. Et puis, plusieurs ouvrages au Canada étaient d'ailleurs construits avec cette technologie. Parmi d'autres, la plateforme de forage d'Iberia. Ensuite de ça, on avait le pont de la Confédération. qui est construit dans les années 90-98. Dans le type de Burj Dubai, la résistance était quelque chose qui était acquis, sauf ce qu'on a développé de nouveau, c'était la mise en place du béton. Il fallait concevoir un béton, ce qu'on appelle un béton autoplaçant.
Qu'est-ce que ça veut dire, un béton autoplaçant?
Justement, un béton autoplaçant est un béton qui est très liquide, qui a des propriétés rheologiques adaptées, qui permet le béton de se mettre sans aucune vibration mécanique. D'habitude, pour consolider le béton, il faut affecter une vibration interne ou externe pour faire chasser l'air et permettre le béton de se placer dans la cage d'armature pour remplir le coffrage. Dans le cas de béton autoplaçant, nous n'avons pas besoin de la consolidation par vibration mécanique parce que le béton est tellement liquide qu'il se place sous l'effet pesanteur seul.
Est-ce que c'est un béton qui prend du temps à sécher? Si je me réfère à la tour du CN, si ma mémoire est bonne, il fallait couler le béton au fur et à mesure et on ne pouvait pas s'arrêter presque. Alors, ouais. Est-ce que c'est un peu l'équivalent pour la tour Burj Dubai?
Pas nécessairement. On peut concevoir le béton en utilisant des adjuvants chimiques qui peuvent retarder la prise du béton, donc nous permettre d'avoir un béton qui ne va pas durcir pendant 12 heures et plus. Ou on peut aussi concevoir le béton avec des résistances précoces qui peuvent nous donner des résistances assez élevées le lendemain, de l'ordre de 40 et 50 mégapascales après un jour. Dans le cas de Burj Dubai, le béton qu'on a développé, qui était spécifié par la compagnie, le concepteur de l'ouvrage, qui est une compagnie américaine basée à Chicago, qui s'appelle Skidmore, Owings & Merrill, ils ont spécifié ce type de béton et c'était pour les fondations. Il y a des piliers qui étaient enfoncés à environ 50 mètres dans le sol pour supporter le tour. Il s'agit d'environ 200 piliers de 1,5 mètres qui sont renforcés avec beaucoup de renforcement d'armature. Et on coule le béton pour assurer une bonne consolidation et assurer la stabilité du tour. Il a fallu utiliser cette nouvelle gamme de béton autoplaçant. Il faut dire que les specs étaient développés dans les débuts des années 2000 et puis la construction a commencé en 2004. Il y avait d'autres piliers aussi, environ 650 piliers d'un diamètre plus faible qui étaient encore enfoncés 36 mètres de profondeur.
Oui, quelque chose d'incroyable. Vous l'avez dit, Huguin, dans un ouvrage comme ça, il n'y a pas de mode d'emploi, on ne peut pas lire et appliquer ce qui est écrit dans les livres. Il faut trouver des solutions techniques uniques pour répondre à des problèmes uniques, évidemment.
Oui, on pourrait citer de nombreux exemples, Yannick. En voici un. Il y avait sur le chantier trois grues qui travaillaient. C'était des grues qui s'élevaient au fur et à mesure que les étages étaient construits. Et c'est une compagnie québécoise qui a mis au point des systèmes de sécurité fonctionnant sans fil et qui permettaient aux opérateurs de grues d'opérer avec des informations fiables sur le poids des charges et sur la hauteur élevée. On écoute Éric Beaulieu, qui est ingénieur et fondateur de la firme LSI à Québec, qui a conçu ces systèmes de sécurité.
Notre rôle a été de fournir des systèmes de sécurité qui permettent aux opérateurs de ne pas dépasser les limites des grues, d'éviter les accidents, d'éviter les collisions. Donc, nos systèmes donnent à l'opérateur toute l'information dont il a besoin pour ne pas dépasser ces limites-là.
Quand vous parlez de système de sécurité, à quoi faites-vous allusion?
On a des appareils qui mesurent le poids qui est levé, qui mesurent la position du câble, la position du crochet, et affichent dans la cabine, devant l'opérateur, les limites de fonctionnement. Si l'opérateur approchait une limite de levage, levait un poids trop pesant pour l'angle de sa grue, on bloquerait la machine pour éviter des accidents. Surtout à cette hauteur-là, les propriétaires voulaient éviter tout risque d'accident. Donc, pour eux, c'était requis d'avoir un système de sécurité dans chacune des trois grues qui ont construit l'édifice.
C'est une espèce d'ordinateur, mini-ordinateur central qui analyse toutes les données, qui fournit l'information à l'opérateur de la grue.
C'est bien ça. L'ordinateur principal, c'est la console qui est dans la grue elle-même, dans la cabine. Il y a un réseau radio de petits capteurs, de petits senseurs qui sont placés sur la machine, qui communiquent toutes les informations sur les mesures, puis ça, sans fil. C'est peut-être le cœur de notre technologie.
Dans un projet comme celui de la Tour de Dubaï, est-ce que ça aurait été possible de réaliser ce projet avec une technologie donc, qui n'était pas la vôtre, celle qui précédait, moins pointue?
Ça aurait été difficile et les données auraient été moins précises. Il faut imaginer qu'un système de mesure placé sur le crochet qui monte et qui descend en même temps que les charges, s'il fallait l'avoir câblé avec des fils, il aurait fallu un dérouleur de fils de 800 mètres. Donc, système traditionnel, il aurait fallu faire autre chose, avoir un autre système de mesure de poids. Puis les autres technologies sont moins précises.
Ce qui veut dire donc le moins de fils sur le chantier, tout se fait par la voie des airs, par le sans-fil.
C'est ça. Puis s'il fallait avoir des fils électriques sur ces grues-là, il faut imaginer des enrouleurs qui enroulent et déroulent le fil au fur et à mesure que les pièces s'étirent. La technologie sans fil a été décisive dans la décision des propriétaires. sanitaire là, pour sécuriser les machines. On peut faire des appareils de sécurité maintenant par technologie sans fil qui n'était pas imaginable il y a peut-être 15 ans. Burj Dubai, je crois, est un exemple de où les gens ont pu profiter de la technologie du sans fil pour faire des installations rapides et simples au lieu d'un système plus lourd et complexe.
Alors, il y a aussi le vent, hein, Hugues, dans les gratte-ciels, un facteur important pour des constructions de cette hauteur-là. Alors, pour ce projet, les essais en soufflerie se sont encore, ma foi, c'est incroyable, déroulés ici au pays.
Déroulés ici au Canada en deux temps, en fait. D'abord, pour les réaliser, il a fallu donc avoir recours à deux laboratoires. D'abord, au laboratoire RWDI à Guelph. Là, on a utilisé une maquette complète de la tour à l'échelle de 1/800, mais les données n'étaient pas assez précises. Donc, pour remédier à ce problème, on a utilisé un autre laboratoire, il s'agit du laboratoire d'aérodynamique du Conseil national de recherche du Canada. Là, les tests ont eu lieu avec une maquette de 8 mètres de hauteur à l'échelle de 1/50.
Oui.
Une maquette qui représentait seulement la partie supérieure de la tour, une maquette plus précise contenant plus de détails. On écoute Guy Larose, qui est le chef de groupe au laboratoire d'aérodynamique du Conseil national de recherche à Ottawa.
Quand on conçoit une maquette à l'échelle 1/800, il faut faire des compromis. Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une règle du pouce, que si c'est un détail de la géométrie externe qui est plus petit que 25 cm en vraie grandeur, à l'échelle de la vraie structure.
Mm-hmm.
Alors, si c'est une ailette ou, je sais pas, une rainure ou des surépasseurs entre les fenêtres qui sont plus petites que 25 cm, on va pas les modeler. On les retrouvera pas sur la maquette à l'échelle 1/800 parce que ça devient un détail très petit. Alors que nous autres, à l'échelle 1/50, des détails de cette grosseur-là, de 25 cm, c'est quand même assez gros, c'est quand même assez important. Ça fait que la maquette à l'échelle 1/50 avait tous les détails architecturaux qui existent sur cette structure-là, qui en a beaucoup, en fait. Au Moyen-Orient, ils aiment beaucoup les petits détails ornementaux. Ils étaient là sur notre structure alors qu'ils n'étaient pas à l'échelle 1/800.
Oui, parce que c'est pas une tour droite, là. On ne parle pas d'une tour droite, mais une tour tout en rondeur.
Tout en rondeur. Dans notre cas, nous avions une maquette, étant donné qu'elle était si grosse, qui représentait tous les détails architecturaux. Et puis, on a mesuré les pressions, la pression à la surface. Puis, ces profils de pression-là étaient un peu différents, mais étaient différents de ce qui a été fait à l'échelle 1/800. Alors, ce qui s'est passé par après, c'est que l'équipe de RWDI à Guelph a refait une maquette à l'échelle 1/800 avec la plupart des détails architecturaux qu'on jugeait importants. Et puis là, les résultats se sont très, très bien recalés. Les travaux de prédiction des effets du vent ont continué avec au moins cet aspect-là qui avait été réglé.
Alors, pour réaliser ce projet, Hugues, le design de la tour a dû évidemment se plier aux exigences techniques, hein, du projet.
Et inversement aussi, oui. Yannick, c'est un concept qui est basé sur le dessin d'une fleur du désert, vue d'en haut, une fleur à 3 pétales, ce qui a compliqué un peu les choses quand est venu le temps de trouver des solutions techniques à des problèmes bien techniques. Jean-Pierre Letourneux est architecte et il travaille au bureau d'architectes MSDL à Montréal.
Le bâtiment a été conçu en fonction de manière à confondre le vent un peu, à faire en sorte, en fait, que le vent n'ait pas pris sur le bâtiment, qu'il le contourne et qu'il n'y ait pas de formation de turbulence et de vortex qui puisse affecter l'enveloppe extérieure et qu'en fait, le vent ne puisse pas s'organiser autour du bâtiment. Alors, ils ont réalisé toute une série de terrasses qui sont, en fait, le retrait qu'on a sur, quand on regarde le bâtiment triaxial. Donc, il y a des terrasses qui sont créées, des retraits qui sont faits de manière justement à briser ces effets de régularité ou de formation de vortex autour de la tour. Alors ça, c'est un des aspects avec lesquels ils ont dû composer. La conception même des ascenseurs est extrêmement complexe. Essayer d'imaginer comment on peut gravir 800 mètres avec des élévateurs qui vont faire toute la hauteur de la tour, c'est carrément impensable. Alors, la façon dont ça a été pensé, il y a des étages où on a accès avec des navettes, ce qu'on appelle des châteaux, qui permettent donc d'avoir accès à des étages particuliers où les gens transfèrent et ensuite sont répartis soit vers l'hôtel, soit vers les unités d'habitation, et ainsi de suite jusqu'au sommet de la tour. Alors, dans la conception, puis dans l'ajout des batteries d'ascenseurs, là, c'est un des éléments qui a dû être traité, qui a dû être considéré.
Et il y a aussi toute la question de la sécurité.
Même s'il existe aujourd'hui des codes de sécurité qu'on doit respecter à de pareilles hauteurs quand il s'agit d'évacuer les gens, donc de les faire sortir de l'immeuble en cas d'incendie, par exemple, les normes et les codes qui existent actuellement ne sont pas suffisants. Dans le code du Burj, ils ont dû rajouter des escaliers, ils ont dû même rajouter des ascenseurs. Ils ont même des ascenseurs qu'ils appellent des lifeboats, qui sont vraiment des ascenseurs qui vont permettre donc d'évacuer les gens du haut vers le bas d'un seul trait. Si justement il y a des incendies qui se déclarent à l'intérieur de l'édifice, et ces ascenseurs-là seront dédiés uniquement en cas d'incendie, seront utilisés en cas d'incendie uniquement par les pompiers pour l'évacuation des immeubles.
Et il y a aussi ce qu'on appelle les effets de cheminée.
Et les effets de cheminée, les effets de pression négative et positive qu'on retrouve dans les bâtiments en hauteur, là, qu'on a chez nous, là, qu'on retrouve ici au centre-ville, ils sont multipliés par 10, par 20, parce qu'on est dans un bâtiment qui est de plus grande hauteur. Et même les effets de cheminée sont inversés, c'est-à-dire que c'est l'air froid qui est à l'intérieur du bâtiment qui veut descendre vers les étages inférieurs. Alors, il y a tout un système de compensation pour éviter justement ces pressions négatives et positives qui empêchent les gens d'entrer, d'ouvrir les portes, puis qui assurent aussi la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment.
Sans compter que dans une tour pareille, il y a beaucoup de fenêtres. Pour 800 mètres de hauteur de fenêtres, il faut les installer, il faut les nettoyer de l'intérieur et surtout de l'extérieur.
Oui, bien, imaginons, hein, c'est un bâtiment qui est tout en verre. Alors, comment on entretient un bâtiment comme celui-là? On sait que les vents du désert sont très puissants, que la poussière peut s'accumuler sur le verre, donc il faut envisager le nettoyage d'un bâtiment pareil. Il y a des systèmes qui, là aussi, ont dû être conçus expressément pour le bâtiment. Donc, on peut penser à des systèmes de nacelles. Ce sont des nacelles un peu comme on en retrouve ici chez nous, là, pour nettoyer les surfaces vitrées des bâtiments. Mais étant donné que la tour est pyramidale et qu'elle prend de l'expansion vers sa base, il faut que les nacelles puissent être déployées pour atteindre les surfaces qui sont à l'extérieur, donc du périmètre central. Donc, les nacelles sont montées sur des bras articulés qui peuvent se déployer, je pense, à 10 ou 15 mètres à l'extérieur de la tour. Alors, c'est un joyeux système, là. C'est toute une construction pour nettoyer le bâtiment.
Ah, superbe, effectivement. Alors, Hugues, vous le savez, comme athlète, hein, les records sont faits pour être battus, n'est-ce pas?
Oui, enfin. Et ce record...
Et celui-là, là, est-ce qu'il va être battu, 818 mètres?
Ce record ne durera pas très longtemps, Yannick. Il y a déjà des projets en marche. On s'active sur les tables à dessin. Il y a le Mile High Tower en Arabie Saoudite, un ouvrage de 1600 mètres de hauteur, le double du Burj Dubaï. La construction doit en principe débuter l'an prochain et on a déjà la technologie pour le faire. On a le béton haute performance, mais aussi les pompes nécessaires pour monter le béton en haut de la tour. On écoute à nouveau le professeur Kamal Kayat de l'Université de Sherbrooke.
Il faut avoir des bétons de très haute performance. Même il y a des bétons maintenant qui sont en conception, des bétons au-delà de 150 mégapascal, qui sont des bétons autoplaçants toujours pour être capable à les placer sous l'effet de pesanteur. Et puis, il faut continuer à travailler avec les fournisseurs des pompes pour développer des pompes adaptées à livrer ces bétons à des distances comme ça de 1 mile et plus élevées.
Oui, parce qu'il faut le monter, le béton. Là. Il faut une pompe qui est capable de monter le béton jusqu'en haut.
Dans mon équipe de recherche, on a un projet maintenant avec un consortium pour justement développer des bétons qu'on peut pomper jusqu'à 1,6 km et plus, des bétons haute performance. C'est vraiment très compliqué, on est à la limite de la technologie, mais il y a vraiment tellement de choses à faire encore.
Il y a un projet au Japon pour 2050, enfin on parle presque d'un rêve, d'une utopie, d'une tour de 4 km. Est-ce que technologiquement c'est déjà pensable?
Bien, d'ici 2050, je suis sûr que les ingénieurs vont continuer à développer de nouveaux matériaux innovateurs. Il y a maintenant des aciers de très haute performance. Seulement, ça va être une combinaison d'acier et puis de béton, ce qu'on appelle des structures hybrides, où on va confiner le béton en très haute résistance dans des coffrages d'acier de très haute résistance. Il y a déjà des tours d'environ 70 mètres au Japon qui sont faites avec ce matériau. Puis, il faut toujours continuer à rêver. C'est possible.
Oui, effectivement, il faut rêver, Hugues. Incroyable, cette histoire.
Rêvons.
Ce n'est pas fini.
C'est pas fini.
Merci beaucoup, Hugues.
Merci.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière.
Alors, on va revenir sur la Terre après ces histoires de gratte-ciel, Chantal, ou sur la glace même, parce que chiffres à l'appui, il y a des scientifiques qui ont encore une fois confirmé cette semaine bien sûr, le réchauffement de l'Arctique. Et qui plus est, l'équipe qui a publié ses résultats dans la revue Science conclut que l'actuelle hausse des températures inverse des siècles de refroidissement, Chantal.
Tout à fait, Yannick. Alors, ces chercheurs, ils ont analysé des vestiges des temps anciens, comme par exemple des sédiments ou des carottes de glace. Et c'est ainsi qu'ils ont pu reconstituer l'évolution du climat et des températures au cours des deux derniers millénaires dans l'Arctique. Leur grande conclusion, c'est que depuis les années 1900, l'activité humaine a eu un impact tel qu'on a inversé un processus naturel de refroidissement qui est lié à l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Tant et si bien qu'en l'an 2000, les températures en été en Arctique étaient en moyenne 1,4 degrés Celsius plus élevées que ce qu'on aurait dû observer si le cycle de refroidissement s'était poursuivi normalement. Une hausse qui correspond, souligne-t-il, à l'industrialisation, à la hausse des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui est également de plus en plus marquée au fur et à mesure que le temps file.
Alors, des résultats donc publiés, on l'a dit, dans Science cette semaine. Et ça, ça va ramener, j'imagine, un peu d'eau au moulin des partisans de la géo-ingénierie. On en a déjà parlé ici, hein, qui disent que le temps presse à un point tel qu'il suffit plus de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Tout à fait. Alors, petit rappel, la géo-ingénierie, on peut la définir comme étant la manipulation délibérée et à large échelle de l'environnement planétaire pour mitiger, donc pour adoucir les changements climatiques causés par l'humain, ou si vous préférez, dit crûment, c'est un plan B dans la lutte au changement climatique. Un plan B qui mérite néanmoins d'être très sérieusement étudié selon la très vénérable Royal Society de Grande-Bretagne, qui est l'Académie des sciences britanniques, ce n'est pas rien, c'est une véritable institution. Alors, la Royal Society qui a publié cette semaine un rapport de 85 pages sur la géo-ingénierie, rapport qui a été déposé au terme d'un an de travail par un groupe d'experts internationaux dont fait partie Ken Caldera. C'est un expert en modélisation du climat, en géo-ingénierie. Il est à la Carnegie Institution for Science en Californie. Je l'ai joint un peu plus tôt cette semaine. Il nous résume tout d'abord les grandes conclusions de ce rapport.
The report has two main points.
Ce rapport tire deux grandes conclusions. La première, c'est que la manière la plus évidente d'éviter les risques et les problèmes de climat, c'est bien sûr de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, et c'est là la deuxième conclusion, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser de côté les autres options, parce que s'il y a une urgence, on devra peut-être recourir à des moyens extraordinaires. Notre rapport envisage deux filières. La première, c'est d'enlever une partie du carbone présent dans l'atmosphère. On peut tout simplement planter un arbre, mais il y a d'autres possibilités, comme par exemple celle qu'explore un de vos compatriotes, le Canadien David Keith, qui étudie comment on peut enfouir le carbone dans le sous-sol. Cette technique est déjà disponible, mais ça coûte très cher. Et toutes ces méthodes n'ont rien à voir avec l'autre filière qui consiste à renvoyer une partie du rayonnement solaire dans l'espace. Dans le cas de la séquestration du carbone, ça prend du temps. Parfois, ça coûte cher, mais c'est relativement sécuritaire. Par contre, si on réfléchit davantage les rayons du soleil dans l'espace, que ce soit, par exemple, en injectant des particules dans la haute atmosphère ou en blanchissant les nuages au-dessus des océans, les températures baisseront plus vite, mais ces méthodes sont plus risquées au plan environnemental et politique.
Ken Caldera de la Carnegie Institution en Californie, Chantal, un des auteurs de ce rapport de la Royal Society britannique sur la géo-ingénierie. Un rapport qui insiste sur la nécessité de faire de la recherche pour être prêt si besoin est.
Et ça, c'est un thème qui est bien délicat par les temps qui courent. Que faut-il donc penser de la publication de ce rapport alors qu'on prépare l'après-Kyoto et qu'on peine, Yannick, à réduire les émissions de gaz à effet de serre? C'est la question que j'ai posée au climatologue Hervé Le Treut. Il est membre de l'Académie des sciences en France, fait également partie du GIEC, ce fameux groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, dirige également l'Institut Pierre-Simon Laplace, spécialisé dans les questions sur l'environnement global. Il nous dit tout d'abord comment il réagit à la publication de ce rapport sur la géo-ingénierie.
D'une certaine manière, je pense que c'est une réaction positive parce que je crois qu'il y a besoin de mettre au clair les idées sur des notions qui envahissent maintenant l'espace public depuis pas mal d'années maintenant et qui ont besoin d'un peu mieux de compréhension de la part des citoyens. Il y a effectivement aussi des risques associés à la parution même d'un rapport, c'est qu'il soit mal lu et mal interprété. Donc il faut prendre ce rapport comme un signal de clarification très utile, mais il faut aussi prendre justement le soin de le lire et d'en tirer les conclusions et pas seulement de se limiter à son existence.
Quelles conclusions en tirez-vous, Hervé Le Treut?
En fait, je crois que c'est une explication d'éléments qui sont appréciés de manière convergente par beaucoup de scientifiques. Le terme géo-ingénierie recouvre des réalités extrêmement différentes. On a besoin de recherches innovatives pour rendre notre usage de l'énergie plus efficace, pour faire des économies d'énergie. On peut aussi aller un pas plus loin, stocker du carbone qu'on a émis, en particulier le carbone qu'on émet dans la combustion du charbon, du pétrole dans des usines thermiques qui fabriquent de l'électricité, même si c'est des techniques qui sont encore embryonnaires, qui sont peut-être pas à l'échelle de ce qu'on attend à court terme pour essayer de résoudre les problèmes climatiques. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont, pour le moment, un petit peu de l'anticipation, on pourrait dire presque de la science-fiction. On appelle dans le rapport la gestion du rayonnement solaire consistant à rajouter des réflecteurs qui renvoient le rayonnement solaire vers l'espace et qui permettent à la planète de se refroidir avec des conséquences climatiques qu'on connaît pas bien, avec des capacités technologiques de mise à œuvre qu'on connaît pas non plus. Donc il y a à faire la part des choses. Il y a des éléments qui sont effectivement possibles, factuels, et puis des éléments qui sont à mon avis dangereux, même dans leur évocation, parce que ça peut laisser croire à des solutions faciles qui, pour le moment, n'existe pas.
Ce que l'Académie britannique des sciences dit, Hervé Le Treut, c'est que ces techniques-là sont dans le paysage, lorsqu'on parle de manipuler de manière délibérée à large échelle l'environnement planétaire pour remédier au changement climatique causé par l'humain, ce qui est la définition que l'Académie donne de la géo-ingénierie. Elles sont dans le paysage et il faudrait peut-être qu'on les étudie davantage pour ne pas avoir à déployer le parachute quand l'avion est en feu. Savoir un peu donc à quoi s'en tenir quant à leur efficacité, si jamais un jour on a besoin d'utiliser ces techniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Je pense qu'on a toujours besoin, tout scientifique aime pouvoir examiner les choses sans tabou, s'y intéresser. Donc effectivement, on a toujours besoin de mieux comprendre ce que l'on peut faire, quelles sont les options. Ce à quoi il faut par contre prêter attention, c'est à ne pas susciter d'espoir mal compris et qui seront utilisés éventuellement pour ne pas prendre les actions immédiates qui sont au jour d'aujourd'hui les seules sur lesquelles on puisse s'appuyer, qui sont effectivement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de nous préparer à nous adapter à la part inévitable des changements climatiques. Donc si cette préparation à des mesures de gestion de l'environnement ne se fait pas au détriment de ce qu'on a à faire rapidement et qui pour le moment est la seule chose qu'on sache faire, qui sont ces mesures de mitigation et d'adaptation dont je viens de parler, alors oui, c'est raisonnable. Mais il faut faire très attention à ne pas susciter de faux espoirs qui pourraient justement servir de diversion par rapport à l'agenda qui est devant nous.
Le simple fait qu'une académie des sciences aussi sérieuse que la Royal Society publie un rapport sur cette grande thématique, la géo-ingénierie, quel message ça envoie à vos yeux, Hervé Le Treut? Est-ce que ça endosse, de quelque manière que ce soit, le recours éventuel ou la recherche sur ces techniques?
Écoutez, moi j'ai lu le résumé qui résume l'essence de ce rapport. C'est pas du tout le message qui est donné, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les deux seules options qui sont devant nous pour le moment, c'est vraiment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'économiser l'énergie et de nous adapter à des changements qui sont en partie inévitables. Ça reste la base de l'action que l'on doit avoir. Et tout le reste, bon, c'est des choses auxquelles on peut essayer de s'intéresser. Et je comprends ce document comme une manière de délivrer ce message de manière beaucoup plus claire. Donc je vois plutôt ça, au contraire, comme une mise à plat des limites de ce que peut représenter la géo-ingénierie.
Mais certains pourraient le percevoir autrement.
Mais il y a un risque, effectivement, que ce soit perçu de manière rapide comme juste le contraire de ce que je viens de dire.
Ben écoutez, je vous remercie infiniment pour avoir partagé avec nous votre lecture de ce rapport, Hervé Le Treut. Merci infiniment.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était le climatologue Hervé Le Treut, membre de l'Académie des sciences en France et aussi du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et il est directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris. Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, Alzheimer, le virage de la prévention.
C'est notre chance d'avoir ici à Montréal, en 2009, les débuts d'une grande étude de 10 ans qui pourrait démontrer que pour les gens plus à risque d'Alzheimer, on peut intervenir de façon précoce et retarder la progression de la maladie de 5 à 10 ans. On veut prouver que ça vaut la peine et que c'est mieux que de prendre une pilule par jour.
Et c'est l'heure, ding-dong, du facteur.
Oui, bonjour. Je lisais dans le Time magazine que le génome du chimpanzé avait été décodé et puis qu'il y a très peu de différence donc, entre le génome du chimpanzé et de l'humain. On parle de 1,23% de différence en moyenne entre nos deux séquences de paires qui constituent l'ADN, ce qui ne semble pas beaucoup. Mais dans le même article, on mentionne aussi en passant que la plupart des différences entre les deux génomes se retrouvent sur le chromosome Y, celui que l'homme porte, mais pas la femme. J'ai lu tout ça en riant à mon épouse, en lui suggérant qu'elle était plus proche du singe que moi, mais de manière surprenante, elle croit plutôt que c'est le contraire. Alors, qui a raison? André Rousseau, de Montréal.
Effectivement, qui a raison de ce couple? Une question dramatique. Alors, pour répondre à M. Rousseau, Gaëlle Lucia Berdoux a joint Pascal Gagneux, qui est biologiste de l'évolution à l'Université de Californie à San Diego. Il nous parle d'abord du pourcentage de différence entre les génomes du chimpanzé et de l'humain.
Ça dépend comment on mesure. Le chiffre de autour de 1% se réfère aux séquences qu'on peut effectivement aligner, où les CGC, ATGC, etc., de l'alphabet génétique des deux espèces peuvent être alignés entre séquences alignables. Et là, en effet, la différence est autour de 1%, un peu plus que 1%. Mais il se trouve que dans nos génomes, il y a d'autres parties d'ADN qui normalement ne sont pas considérées dans ces comparaisons parce qu'elles ne contiennent pas de gènes, donc des séquences de lettres qui codent pour des protéines. Et si on inclut ces séquences, on appelle ça l'hétérochromatine, qui sont remplies de séquences hautement répétitives et de virus, etc., la différence est bien plus élevée. Elle est autour de 5% entre les deux génomes. Parce qu'il se trouve qu'il y a des éléments de séquences qui sont tout à fait absents du chimpanzé et présents chez l'humain, ou vice-versa, qu'il y a des grands bouts d'ADN qui sont présents chez l'être humain et absents chez le chimpanzé.
Et quand on additionne tout ça, on arrive à peu près à 5%, en fait.
Correct.
Et est-ce que notre auditeur a raison? Est-ce que l'essentiel de la différence chromosomique entre chimpanzés et humains se retrouve effectivement sur le chromosome Y?
Je crois qu'il y a un petit malentendu. Il a raison que le chromosome Y diffère plus que les autres chromosomes. En moyenne, il y a plus de différence entre le chromosome Y humain et chimpanzé que parmi les autres chromosomes qu'on appelle autosomes. Mais le chromosome Y est minuscule comparé aux autres chromosomes, et donc c'est pas correct que la majorité des différences génétiques entre les deux espèces se trouvent sur ce chromosome Y.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée que la femme soit plus proche du singe que l'homme?
Je crois que c'est dû partiellement à ce malentendu de l'auditeur qui pense que la majorité des différences sont sur le chromosome Y. La majorité de notre génome passe à travers les hommes et les femmes à chaque génération. Donc, par définition, les êtres humains vivants aujourd'hui, tous partagent une séparation de notre espèce cousine des chimpanzés qui est semblable.
Qu'est-ce qui diffère le chromosome Y chez le chimpanzé par rapport à chez l'humain?
Ben, par exemple, le chromosome Y du chimpanzé a seulement environ la moitié de la taille du chromosome Y humain. Ça, c'est entre autres dû à des séquences répétitives que je mentionnais avant, qui se sont multipliées seulement, uniquement sur le chromosome Y humain après la séparation des lignées chimpanzés, bonobos et humains.
Donc, s'ils ont des tailles différentes, on imagine qu'il y a aussi des gènes qui doivent être présents chez l'homme, chez l'humain et pas chez le chimpanzé?
Tout à fait. Et il y en a un particulier qui est, c'est un gène qui code pour une protocadérine, une protéine qui est importante pour le contact entre neurones, qui est tout à fait absent chez le chimpanzé et qui est présent sur le chromosome Y humain, par exemple. Et ça, c'est un candidat assez intéressant pour étudier des différences de développement neuronal dans notre espèce, qui serait donc unique à l'espèce humaine et qui affecte pas seulement les êtres humains, pas seulement les hommes, mais aussi les femmes.
Et donc, ce gène servirait à quoi exactement?
C'est un gène qui est présent seulement sur le chromosome X du chimpanzé, mais dans notre espèce, la copie de ce gène s'est copiée sur notre chromosome Y, et de fait qu'elle existe maintenant sur les deux chromosomes sexuels, X et Y, ça veut dire que ce gène est exprimé beaucoup plus, de manière beaucoup plus haute seulement chez l'être humain. Et cela pourrait avoir un rôle dans le développement cérébral, par exemple, du fœtus, des enfants, dans notre espèce seulement et pas chez le chimpanzé.
Je vous remercie beaucoup, M. Gagneux, pour ces explications.
Merci à vous.
Question effectivement passionnante dont Gaëlle Lucia Berdoux a trouvé cette réponse auprès de Pascal Gagneux, donc de l'Université de Californie à San Diego. Et si vous avez, vous aussi, des questions à nous poser, vous pouvez le faire par téléphone. Vous le savez, de la région de Montréal, vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous composez le 1-800-752-9050, puis aussi le courriel, bien sûr, lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer cette première heure comme à l'habitude. Alors avec cette semaine, Hervé Fischer. Bonjour Hervé.
Bonjour Yannick.
De retour de vacances.
Mais bien sûr, en ayant réfléchi beaucoup à la belle nature dans laquelle j'ai passé les vacances.
Oui, parce que vous voulez nous parler du sentiment de nature qui a beaucoup changé dans l'histoire. On va commencer au commencement. Notre première conception au fond de la nature, c'est quoi?
Oui, on va pas refaire toute l'histoire, mais rapidement, on se souvient, au moins dans notre culture, que la première conception était biblique ou théologique. C'était le paradis perdu et la nature où on souffre, où on travaille. Et en fait, c'était une nature que l'on craignait, mystérieuse et dure. Et ce sentiment-là a duré pendant des siècles avec la magie. Et puis, effectivement, je crois qu'on s'en est séparé avec la modernité. Au fond, on pourrait dire que la modernité a commencé avec un philosophe, un peu théologien encore, Descartes, qui oppose les animaux, machines et la nature, l'âme et le corps, mais aussi qui dit que la nature, il faut que l'homme l'exploite.
S'en empare, l'utilise.
Et au fond, c'est le début de ce qui sera ensuite au 19e siècle, l'exploitation des ressources naturelles, manufacturières, des ressources électriques, etc. Alors, il y a un sentiment là qui est à l'inverse, non pas de craindre la nature ou de la considérer comme du péché, mais au contraire de vouloir la dominer. Ça, c'est le début de la modernité occidentale.
Et on vit toujours avec ça, d'ailleurs. Ça,
bien sûr, on a décliné un peu différemment aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous sommes en pleine exploitation, surexploitation abusive de la nature, bien entendu. Donc ce pôle-là est resté, mais il y a un pôle tout à fait à l'opposé qui s'est développé, c'est souvent l'équilibre qui se fait comme ça. Oui. Et aussi au 19e siècle, c'est le romantisme, c'est-à-dire la nature mélancolique, nocturne, liée au sentiment, à l'amour, à nostalgie. Donc un sentiment romantique de la nature qui renoue comme une sorte de paganisme, où la nature est animée, les correspondances de Baudelaire. Oui. Et puis ça, c'est ce mouvement-là, exactement à l'opposé de l'exploitation industrielle, manufacturière.
Et tout ça, ça naît au 19e siècle, c'est intéressant. Hein, oui.
Ah oui, c'est finalement relativement récent. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est né un peu en contrepoint l'un de l'autre. Mais aujourd'hui encore, au fond, nous sommes un peu dans la même bipolarité. Parce que quand je regarde le mouvement écologique, parce que maintenant la nature est verte, bon, ou elle voudrait être verte, ou nous voudrions qu'elle soit verte, nous avons ce même sentiment d'un côté que nous exploitons, mais d'une façon démesurée, éventuellement catastrophique la nature. On voit la guerre de l'eau, l'assèchement d'immenses territoires, l'exploitation des ressources naturelles, du pétrole, du gaz. Alors, on a un sentiment de plus en plus, disons, aigu de cette exploitation, et du coup, ça rend la nature plus fragile. Et donc, on cherche au contraire à la sauver contre le méchant, et qui est le méchant capitalisme industriel. Et alors, on a en fait cette sorte de religion écologique de la nature, mais qui est curieusement basée cette fois-ci sur une scientifisation de notre perception.
Oui, ça c'est intéressant, hein, parce qu'effectivement, on peut dire, il y a un certain romantisme dans l'écologie, mais l'écologie, c'est une science, c'est fondé sur beaucoup de données, d'observations, même une quantité phénoménale d'observations, et c'est ça aussi qui alimente cette vision, cette compréhension de la nature.
C'est hein, ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous regardons la nature, même d'une façon, disons, très personnelle et subjective, mais en fait, nous la regardons à travers un filtre, qui est une connaissance scientifique que nous avons de la nature, grâce au numérique, évidemment, grâce aux photos par satellite, de sorte que quand nous regardons la nature, nous sommes conscients en même temps qu'il y a des pluies acides, qu'il y a un trou d'ozone qui s'élargit, qu'il y a des changements climatiques. Nous avons des images par ordinateur extrêmement précises de cette nature. Et nous avons aussi tout ce qu'on pourrait appeler les effets spéciaux, c'est-à-dire le peuple des insectes, les effets cinématographiques, la haute définition que donnent aussi les ordinateurs. Parce que quand les ordinateurs nous servent à reconstituer des paysages naturels, ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus fins, au-delà de notre perception que selon nous avons l'expérience. Alors c'est très curieux, nous avons aujourd'hui en même temps une sorte de religion très forte, personnelle, panthéiste de la nature, puis en même temps nous avons vraiment, c'est le domaine où nous sommes le plus informés scientifiquement et nous regardons à travers ces images-là.
Mmh. Tout en exploitant ou en surexploitant la nature, comme on le disait tout à l'heure. Donc, on est vraiment entre deux pôles.
Oui, nous sommes très ambivalents. Plus on exploite méchamment, plus on, scientifiquement on dénonce.
Oui.
Et c'est quand même devenu le grand débat de notre époque. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'au fond, il y a un enjeu qui dépasse de beaucoup la perception romantique ou impressionniste de la nature, ou la peur que la nature soit nous engloutisse. Parce qu'au fond, on pourrait peut-être dire ça pour terminer, c'est que nous avons de plus en plus pris conscience que nous sommes une partie de la nature, une espèce dans la nature. Nous sommes, toute la philosophie matérialiste contemporaine ne dit pas autre chose. Et dans cette mesure-là, quand nous détruisons la nature, c'est nous-mêmes que nous détruisons. Et là, on arrive à cette idée que sauver la nature, c'est peut-être sauver l'espèce humaine en voie, diraient même certains, en voie de disparition, une espèce menacée que nous serions. Alors là, on arrive à un nœud. Oui. De cette bipolarité. Et vraiment, c'est l'enjeu global que nous avons aujourd'hui. Comment allons-nous sauver nous-mêmes, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire nous-mêmes, parce que nous sommes dans la matière même de cette nature. D'une certaine manière, c'est aussi une sorte de panthéisme à la manière de Spinoza, mais actualisé, et qui est devenu aujourd'hui une sensibilité. Donc, un sentiment de la nature qui est vraiment tellement différent des sentiments bibliques qu'on évoquait pour commencer.
Hervé, je vois que vous avez eu un été très proche de la nature.
Absolument, j'ai médité.
Qui vous a amené à réfléchir et à méditer sur la nature. Hervé Fischer, je vous remercie beaucoup.
C'était les rêveries du promeneur solitaire.
Merci Hervé.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette première heure des Années-Lumière. Je vous invite à regarder ce soir à la télévision de Radio-Canada, 18h30, le magazine Découverte. Deux reportages, entre autres, tiens, l'un sur l'effet dépressif du cannabis à forte dose, et puis l'autre sur le tournage du documentaire présenté au cours des deux dernières semaines, Baby Boomers à l'assaut du Mont Mera. Ça, c'est à la télé, mais pour l'instant, vous restez à la radio pour la suite des Années-Lumière, après le bulletin de nouvelles. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villieu, toujours au microphone de cette belle émission d'actualité et de culture scientifique. Alors, quatre éléments au menu de notre deuxième heure aujourd'hui. D'abord, premièrement, une roche qui déçoit avec Gaëlle Lucia Berdou. Deuxièmement, le petit journal de la science. Troisièmement, le virage vers la prévention en matière d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives. Et quatrièmement, l'auteur de la semaine, c'est Hugues de Roussan qui la reçoit. Elle s'appelle Marie-Noëlle Imbert et elle a publié « Le mystère des jumeaux » aux éditions Perrin. Milliards et demi d'années. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la formation de l'une des plus vieilles roches qui soit connue sur Terre. Et pas seulement l'une des plus vieilles, mais aussi l'une des plus controversées. Gaëlle Lucia Berdou, cette roche, elle a un petit nom un peu particulier, on va commencer par ça si vous voulez bien. C'est le chair d'apex. Qu'est-ce que c'est que du chair d'apex?
Oui, le chair d'apex ou le chert d'apex, que les Anglais appellent l'apex chert. Mm-hmm. C'est une roche siliceuse qui se serait formée, effectivement, il y a à peu près 3 milliards et demi d'années, à partir d'une espèce de gel de silice qui était rejeté à l'époque jadis par des fumerolles ou des cheminées hydrothermales. On trouve cette roche-là dans le désert de l'Ouest australien. Eh bien, à cause de son âge et aussi par ses propriétés qui font qu'elle préserve très bien ce qu'elle contient. Elle a énormément été étudiée au cours des dernières années. Les chercheurs se sont dit que grâce à une si vieille roche, on pourrait peut-être trouver des signes de la présence de vie sur Terre à cette époque-là, il y a 3 milliards et demi d'années. Donc, et c'était évidemment pas très longtemps après la formation de notre planète. Donc, peut-être pourrions-nous enfin savoir à quand remonte la vie sur Terre. C'est une aventure scientifique qui a donné des résultats dans les 15-20 dernières années, mais des résultats contestés, comme nous l'explique Daniele Pinti, qui est chercheur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal.
Il y a 30 ans, on a découvert des petits filaments, des filaments faits de carbone. Ça, c'était une découverte qui était faite par William Schoff, qui était un professeur, qui est encore professeur à l'Université de Californie. Et il avait considéré ces filaments comme des microfossiles des cyanobactéries.
Il avait même catégorisé ces cyanobactéries.
Oui, il avait étudié la morphologie. Il avait vu qu'il montrait la morphologie avec une division et une cellule. Et il avait donné toute une série de noms à différents filums des cyanobactéries.
Des cyanobactéries qui produisent de l'oxygène et qui seraient à l'origine de l'atmosphère terrestre, en fait.
Oui, on considère les cyanobactéries, qu'on appelle aussi les algues bleues, qui ne sont pas des algues, bien sûr, ils sont des bactéries, et ont la caractéristique de produire de l'oxygène, qui pour eux, c'est un sous-produit, c'est un produit toxique pour eux, qui rejettent de l'atmosphère. Et on considère que quand les cyanobactéries se sont développées en masse sur Terre, ils ont permis d'accumuler l'oxygène de l'atmosphère terrestre et donc transformer la Terre d'une planète plutôt anoxique, ça veut dire sans oxygène, dans la planète qu'on connaît aujourd'hui avec une atmosphère oxygénée.
Donc ce chercheur californien concluait de ces microfossiles qu'il y avait de la vie il y a 3 milliards et demi d'années dans ce qui est maintenant l'Australie?
Oui. Première conclusion, c'était qu'il y avait de la vie déjà à 3 milliards et demi, que ce n'est pas impossible. Probablement, sûrement, il y avait eu déjà de la vie sur Terre à cette période. Le problème, c'est de trouver des traces de cette vie, compte tenu de l'âge de la roche. Et la deuxième conclusion, c'est que le fait qu'il y ait des cyanobactéries, peut-être déjà il y avait des organismes qui pouvaient produire et accumuler de l'oxygène sur Terre.
Alors, c'est une conclusion, ce sont des conclusions qui ont été très controversées depuis?
Ben, jusqu'à l'année 2002, ça a été accepté en général comme la présence des cyanobactéries, même s'il y avait déjà eu des polémiques autour de ces roches. En 2002, il y a eu un article sur la revue Nature de Martin Brazier, qui est un professeur à l'Université d'Oxford, qui avait réétudié la roche, avait étudié sa minéralogie et avait conclu que cette cherte était un dépôt de silice hydrothermal et la température des dépôts était autour de 250-300 degrés. Or, les cyanobactéries sont des organismes qu'on dit mésophiles qui survivent à des températures maximum de 65 degrés. Donc, l'effet d'avoir un roche qui avait précipité à 250 degrés, les cyanobactéries ne pouvaient pas résister, ils ne pouvaient pas survivre. Donc, il avait conclu que si ces filaments de carbone étaient des microfossiles, étaient probablement une contamination tardive de la roche, ça veut dire des organismes qui ont pénétré à travers des fractures, des fissures de la roche. Donc, ils n'ont pas probablement 3 milliards et demi, mais peut-être beaucoup plus jeunes. Ou c'était des organismes qui vivent autour des sources hydrothermales et qu'eux, ils peuvent résister autour des températures de 100 degrés, 110 degrés.
Alors, Daniele Pinti, donc, qui est chercheur à l'Université du Québec à Montréal. Gaël, on l'entend, M. Pinti, ajoute son grain de sel dans un débat où il y en a déjà pas mal.
Oui, oui. En fait, il vient de publier un article dans la revue Nature Geoscience, un article qui s'intitule « Altération hydrothermale et artefacts microfossiles dans le chair d'Apex ». Donc, c'est une publication qui penche pour l'absence de vie dans ces roches, en tout cas d'une vie qui aurait 3 milliards et demi d'années. On l'écoute.
On a observé la minéralogie de ces roches. Et on a trouvé pratiquement la même minéralogie qu'avait observé Martin Brazier en 2002, mais avec la différence que la morphologie de certains minéraux, il ne nous indiquait pas des températures des précipitations de ces roches à hauteur de 200 degrés, mais plutôt que ces roches, elles ont subi une série d'altérations successives à son dépôt avec des températures de 60 à 80 degrés. Et on a trouvé aussi des traces qui ressemblent à des microfossiles, mais qui sont probablement des artefacts dus à l'altération de certains minéraux et qui produisent des formes qui sont siliceuses, ils ne sont pas des faits de carbone, qui ressemblent à des microfossiles. Et on a trouvé aussi des traces qui ont une morphologie identique à des microfossiles, mais qui sont des morphologies trop évoluées. Et je m'explique, il y a 3 milliards et demi, les formes de vie étaient probablement très primitives. Donc, ils étaient des simples filaments de carbone qu'on observe encore aujourd'hui. On a des bactéries qui sont filamenteuses qu'on trouve autour des sources, par exemple, hydrothermales. Mais les microfossiles, ou celles qui ressemblent à des microfossiles que nous, on a trouvés, ils ont des terminaisons branchées, donc ils ont des branches. Et cette morphologie complexe indique une évolution
relativement avancé.
Relativement avancé. Donc, ça veut dire des âges plus récents. Donc, ce qu'on a proposé, c'est que, première chose, ces roches, il a subi de fortes altérations. Donc, c'est une roche extrêmement altérée. Donc, c'est très difficile que quelque chose puisse avoir survécu pour 3 milliards et demi. Et que peut-être la majorité des microfossiles qui sont contenus dans ces roches, ils sont en réalité en contamination tardive. Peut-être 500 millions, 1 milliard d'années après, on ne sait pas. Mais c'est en contamination tardive. Donc, ce n'est pas des microfossiles qui ont 3 milliards et demi.
Donc, vous venez appuyer ce que disait le professeur Brazier
En partie, oui, avec la différence que l'association minérale que lui avait jugée des hautes températures, nous, on a des preuves morphologiques que les mêmes minéraux, ils sont des minéraux d'altération. Donc, la roche, simplement, elle montre qu'il a subi une forte altération et à travers des microfractures, la roche a été colonisée par des micro-organismes.
Alors Gaël, si, comme le pense Daniele Pinti, qu'on vient d'entendre, on n'a pas de preuve de la présence de vie sur Terre il y a donc 3 milliards et demi d'années, hélas, hein, à quand est-ce que ça remonte les plus vieilles preuves pour l'instant là?
Oui, pas de preuves microfossiles. En tout cas, oui, c'est une question qui anime aussi beaucoup de débats.
Oui.
Mais selon M. Pinti, on peut faire remonter donc les plus vieux microfossiles après quand même de 3 milliards d'années.
Oui. Mmh.
Des microfossiles qui ont été retrouvés eux aussi d'ailleurs en Australie. Et si on utilise d'autres méthodes d'analyse, par exemple chercher des traces chimiques du métabolisme des organismes vivants de l'époque dans les roches, on peut en retrouver qui ont effectivement pas loin de 3 milliards et demi d'années à peu près.
Ce qui laisse tout de même en question une en suspens, une petite question, celle de l'origine de la vie quand même.
Oui, quand même. Comment sont apparues sur Terre les conditions et les composés nécessaires à l'émergence de la vie? C'est une question qui passionne également Daniele Pinti, notamment l'éventuelle provenance extraterrestre de ces éléments. Mm-hmm. Et justement, on apprenait la semaine dernière que la sonde spatiale Stardust, qui a recueilli des poussières de comètes, a rapporté dans ses poussières un acide aminé, la glycine, un acide aminé qui fait partie de la composition des protéines et donc de la vie. On peut écouter les commentaires là-dessus de Daniele Pinti.
Les problèmes, c'est cette période, première période de sur la Terre, quand on est passé d'avoir des composés organiques à la vie. C'est une chose qui est complètement différente, la vie et des composés organiques. Alors, des composés organiques, il y en a plein dans l'univers. Dans les nébuleuses stellaires, on produit plein de matériels organiques. On produit des alcools, on produit des acides aminés. Donc, on a tout une chimie organique très complexe. Donc, c'est pas rare d'avoir des matériels organiques, des composés organiques. Le problème, c'est que mettre ensemble ces composés et avoir de la vie. Alors, avoir de la vie, il y a plein de définitions. Des définitions, c'est qu'ils sont des organismes qui puissent auto-reproduire en suivant une évolution darwinienne. Donc, ça veut dire que c'est des composés qui sont capables de se mettre ensemble et créer un organisme qui est capable de se auto-reproduire. Et ça, c'est extrêmement complexe. Donc, les biologistes, ils se penchent sur ces premières périodes de comprendre comment on est passé d'un monde où peut-être il y avait des composés organiques, peut-être amenés par des comètes, par des météorites. C'est pas nouveau, c'est une vieille théorie que le fameux astronome Hoyle, il avait suggéré il y a plusieurs années, décennies, des panspermies, donc d'arriver sur Terre de ces composés. Mais comment ces composés, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il s'est composé et puis s'est combiné et formé des organismes capables de s'auto-reproduire?
Ce qu'on appelle la soupe primordiale, donc l'espèce de mélange de composés qui permet l'émergence de la vie.
Oui, et sur ça, on a plein de théories, mais malheureusement, on n'a pas d'évidence géologique. Parce que malheureusement, c'est probablement ces produits dans ces premières, disons, 300 à 500 millions d'années, où on n'a pratiquement pas des traces des roches sur Terre. Donc, on n'a pas des empreintes qui soient chimiques, qui soient des microfossiles. Donc, nous, géologues, on ne peut pas donner aux biologistes un appui, une évidence directe de qu'est-ce que c'était la vie dans cette première période.
Daniele Pinti, chercheur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'Université du Québec à Montréal. Gaëlle Lucie Berdou, merci beaucoup.
De rien, Yannick.
Qui n'a pas rêvé un jour de la pilule miracle qui permettrait de manger sans compter et surtout sans grossir? Des chercheurs américains ont découvert un gène chez les souris qui, une fois désactivé, permet aux souris de ne pas prendre de poids malgré un régime alimentaire riche en graisse et ce, sans faire davantage d'exercice. Le gène en question, le IKKE, agirait comme un centre de contrôle de l'obésité. Il produit une protéine qui est une enzyme et dont la fonction est d'activer ou de désactiver d'autres protéines qui, elles, agissent sur le métabolisme des souris. L'équipe de chercheurs du Life Science Institute de l'Université du Michigan veut maintenant orienter ses recherches plus loin et trouver des molécules qui seraient capables de bloquer chez les humains l'activité de cette protéine minceur. Selon le directeur de l'Institut, Alan Saltiel, de telles molécules permettraient de créer de nouveaux traitements contre l'obésité et contre le diabète adulte, le rêve des gros mangeurs et des gourmands. Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait rêver avec des gènes anti-grosseurs, mais jusqu'à maintenant, rien de concret.
Un chimiste à l'emploi du gouvernement américain propose un nouveau débouché pour les centaines de milliers de tonnes de melons d'eau qui pourrissent dans les champs parce qu'ils sont trop abîmés pour trouver preneur au supermarché.
Pourquoi ne pas en faire de l'éthanol? C'est la suggestion de Wayne Fish, chercheur au ministère de l'Agriculture. Il a découvert qu'on pourrait produire aux États-Unis près de 9,5 millions de litres d'éthanol en utilisant tous ces melons laissés pour compte parce qu'ils ne sont pas parfaits. Il s'agit bien sûr d'une goutte d'eau dans la mer d'éthanol dérivé du maïs qui se calcule plutôt en milliards de litres. Mais l'ajout du melon d'eau permettrait d'optimiser le processus de fermentation du maïs en éthanol, souligne le chercheur. Ces résultats viennent de paraître dans le journal Biotechnology for Biofuels.
Si vous trouvez qu'un verre de lait c'est bien, mais deux c'est mieux, vous faites partie de la minorité d'humains qui peuvent digérer le lactose. Et contrairement à ce qu'on croyait, cette tolérance n'aurait pas évolué en Europe du Nord pour permettre aux humains d'absorber plus de vitamine D dans ces contrées peu ensoleillées, mais plutôt dans la région de l'Europe centrale et des Balkans. C'est la conclusion de chercheurs britanniques qui ont simulé l'évolution du gène de la lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lactose du lait. Selon eux, la lactase a pris racine dans la population européenne il y a 7500 ans. Elle aurait alors permis de faciliter la transition entre la chasse et un mode de vie agraire. Boire du lait, c'est multiplier l'apport énergétique fourni par les animaux de la ferme. Tant qu'à élever une vache pour manger sa viande, autant boire aussi son lait.
Petite révolution en médecine, changement radical d'approche, nouvelle vision des choses. On ne sait trop quelle expression retenir, mais voici qu'on parle aujourd'hui ouvertement de prévention des maladies du cerveau vieillissant, dont la fameuse maladie d'Alzheimer. Voici donc qu'on ne parle plus seulement de traitement. Signe des temps et preuve de cette nouveauté, le congrès de l'Association internationale de psychogériatrie, qui se tenait cette semaine à Montréal et qui était présidé par le neurologue Serge Gauthier de l'Université McGill. Il était entièrement consacré, le congrès en question, à ce virage vers la prévention.
C'est un virage, effectivement. Alors, au lieu de chercher une pilule qui va tout régler, on va se concerter et trouver les facteurs de protection et les facteurs de risque qu'on peut modifier à travers sa vie.
Et cette pilule, c'est parce qu'on ne l'a pas trouvée, on est déçu, c'est un échec de l'approche pharmacologique, vous diriez?
Dans le cas de la maladie d'Alzheimer en particulier, on n'a pas vraiment trouvé un médicament pour aller au-delà de l'amélioration des symptômes. On n'a pas trouvé de médicament à date pour arrêter la progression au moment où la maladie est déjà manifeste. Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose au début des symptômes avant que la maladie soit diagnostiquée. Mais en attendant, on pense qu'on a assez d'informations à partir d'études épidémiologiques pour aller de l'avant avec des grandes études de prévention.
Alors, prenons des exemples de ces facteurs de risque-là qu'on a observés. Il y a des exemples?
Oui, l'exemple le plus classique, c'est la haute pression artérielle. Ça, c'est 140 et plus quand on lit la pression, le premier chiffre. Entre 40 et 60 ans, chez des personnes qui ont une pression artérielle qui est mal contrôlée, leur risque de progresser vers l'Alzheimer est plus élevé que dans la moyenne. Et l'étude qui a été faite en Europe, qui s'appelle l'étude SISTER, c'était de traiter très bien les gens qui ont de l'hypertension ou les traiter comme d'habitude. Et il y avait une différence de 50 % une réduction du risque de moitié si vous contrôlez la pression de façon plus stricte.
Alors ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ces études ponctuelles, justement, parce que le résultat semble assez spectaculaire dans ce cas-là.
C'est l'étude la plus positive dans ce domaine à date. Il y a eu des études de suppléments d'acide folique, de certaines vitamines. Il y a eu des études où on donne des médicaments pour l'arthrite. Mais ça a été fait plutôt chez des gens qui avaient soit la maladie d'Alzheimer déjà diagnostiquée ou qui étaient tout juste au moment de l'avoir. Et il est comme trop tard pour intervenir avec la diète ou des médicaments pour l'arthrite. Ce qu'on se demande maintenant, c'est si on donnait ces produits bien avant que les symptômes apparaissent chez des gens à risque, est-ce qu'on ne pourrait pas retarder l'apparition des symptômes?
Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on a des conseils généraux. Hein. Faites de l'exercice, faites travailler un peu votre cerveau, puis vous irez bien. On a l'impression que ce n'est pas des conseils qui sont fondés sur de la grosse recherche scientifique, mais c'est comme, bon, disons, du bon sens.
Il y a quand même plusieurs recherches qui ont confirmé que l'exercice physique augmente votre performance intellectuelle. Ça a été fait chez des personnes âgées frêles, mais qui n'ont pas l'Alzheimer. Ça a été fait chez des personnes âgées qui avaient l'Alzheimer. Ce sont des études assez courtes. On parle de 6 mois ou 1 an d'exercice physique. Au point de vue des exercices intellectuels, il y a un petit peu moins d'évidence, mais ça commence. Et la grande question, c'est si vous combinez les deux de façon structurée pendant une période soutenue d'au moins 1 an avec des exercices par après ce qu'on appelle des séances de booster. On vous refait faire votre exercice par épisode sur une période de 5 à 10 ans. Là, peut-être qu'on pourrait avoir un effet à long terme.
Alors, on a des conseils généraux. Kizane, mais on voudrait peut-être aussi, c'est bien connu en prévention, il y a des groupes qui sont plus à risque que d'autres, des parties de la population, des gens qui pour toutes raisons ont plus de risques de développer telle ou telle maladie. J'imagine que aussi pour l'Alzheimer, on essaye de trouver ça. Il y a des gens qui sont plus susceptibles que d'autres.
Effectivement, c'est pas tout le monde qui, en vieillissant, va avoir la maladie d'Alzheimer. On sait déjà un peu qui est plus à risque que d'autres grâce à la connaissance de certains gènes comme l'APOE. Le fait que vous avez moins d'éducation au début de votre vie, que vous avez été relativement isolé socialement, que vous avez eu de la haute pression et peut-être du diabète, que vous avez eu dans votre famille des gens qui ont eu l'Alzheimer relativement jeune. Il y a aussi d'autres méthodes plus compliquées de voir si vous êtes plus à risque d'avoir l'Alzheimer, comme par exemple la grosseur de votre cerveau, surtout la partie qui a rapport avec la mémoire, l'hippocampe, où on peut mesurer s'il y a des dépôts d'amyloïdes déjà présents dans votre cerveau grâce à certains scans. Mais si on garde ça simple, on pourrait se faire un index, une espèce de questionnaire sans test spécifique et vous dire, oui, ton risque est plus haut que la moyenne, donc l'intervention qu'on te propose est celle-ci, on va la comparer à une autre pendant 5 à 10 ans.
Alors, des études de prévention de la maladie d'Alzheimer, on en a fait plusieurs depuis quelques années. On a testé, par exemple, les extraits de ginkgo biloba, un arbre dont les feuilles ont des vertus antioxydantes. On a testé des anti-inflammatoires, on a testé des programmes d'exercice physique, des régimes alimentaires, comme vient de l'évoquer le docteur Gauthier, mais souvent sans grand résultat. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'a pas essayé justement plusieurs moyens d'intervention à la fois. Le docteur Philippe Robert est psychiatre au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Il croit qu'il faut passer à des études de prévention plus ambitieuses.
La maladie d'Alzheimer a des multiples origines génétiques, vasculaires, neurodégénératives, sociales. Et donc, pourquoi utiliser une seule chose ? Il a été démontré dans des études épidémiologiques que différents facteurs pouvaient intervenir. Et donc, c'est le concept d'études multidomaines. Il y a l'étude qui s'appelle MAPT, Multidomaine Alzheimer Prevention Trial. Cette étude, eh bien, c'est de comparer l'efficacité de différents groupes. Le groupe le plus riche, hein, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, serait un groupe où les sujets, puisque c'est là aussi, on est chez des gens qui ont 70 ans, qui peuvent avoir une fragilité. Je me plains de la mémoire, j'ai une fragilité, j'ai des difficultés à marcher, par exemple. Et à ce moment-là, on va leur proposer de prendre des oméga-3, de faire de l'exercice physique régulièrement dans la semaine, d'avoir une stimulation cognitive avec des groupes d'entraînement mémoire et de donner de bons conseils de nutrition. Donc là, vous voyez qu'on attaque à la fois différents angles qui sont à la fois directs et indirect, parce que quand on dit on va faire des groupes de stimulation cognitive, en même temps qu'on fait le groupe de stimulation cognitive, on favorise l'interaction sociale des gens, qui a été montré aussi comme étant un facteur, un protecteur contre l'évolution vers une démence.
Et c'est quoi la logique de ce genre d'intervention-là ? Bon, on se dit, bon, certainement que c'est pas mauvais de bien manger, c'est pas mauvais de faire un peu d'exercice, le docteur nous l'a toujours dit, c'est pas mauvais, effectivement, de se faire un peu de aller le cerveau, mais j'imagine qu'il y a quand même une logique scientifique derrière des essais comme ça qui sont compliqués, vastes et coûteux.
Sous chacune des interventions, il y a un rationnel scientifique. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'activité physique, parce que c'est bien connu, on n'arrête pas de dire qu'il faut marcher 15 minutes par jour, 30 minutes. Les premières études, elles ont eu lieu quand même chez les animaux. Et on a montré que les animaux qui avaient une activité physique plus importante avaient un métabolisme et un fonctionnement cérébral qui étaient différents de ceux qui ne marchaient pas. Si je prends l'exemple de la stimulation cognitive, des études de ce type ont été faites. Alors, petit groupe, chez des sujets sains et chez des patients, montrant que un certain type de stimulation cognitive, effectivement, pouvait préserver. En ce qui concerne la nourriture, de très nombreuses études, mais là, c'est, je fais la différence entre l'étude qui teste un produit et l'étude dite épidémiologique. L'étude épidémiologique, moi je viens de France, on a eu une étude épidémiologique célèbre qui s'appelle l'étude épidémiologique Paquid, qui a été réalisée dans le Bordelais et qui a montré, qui a étudié le taux d'évolution de la démence dans une population qui a été prise il y a 15 ans. Et c'est à partir de cette étude qu'il a été très fortement médiatisé dans un premier temps que le vin de Bordeaux était protecteur contre la maladie d'Alzheimer. C'était pas seulement le vin de Bordeaux d'ailleurs, puis ça a été montré avec les vins du Chili et d'autres, vins forts ou riches en tanins. Et on sait que dans ce tanin, en fait, ça a des propriétés antioxydantes qui ont été démontrées par ailleurs. Donc, sous chacun de ces aspects de l'évolution de l'étude multidomaine, il y a un rationnel qui est important. Pour les oméga-3 aussi. Mais jamais ça n'a été testé ensemble. Et l'idée de les associer, alors on pourrait dire que c'est anti-scientifique. Parce que en science, on dit testons une chose et voyons. Mais ça, on l'a déjà fait. Et il faut bien se dire que quand on est dans les études de prévention, c'est le bien-être et la poursuite du bien-être des gens qu'il faut avoir. Et je pense que donner le maximum de chance aussi, c'est quelque chose qui est éthique.
L'étude de prévention multidomaine MAPT dont on vient de parler donc a été lancée en France il y a 9 mois dans le cadre du grand plan Alzheimer. Elle va durer au moins 3 ans. Mais sans attendre ces résultats, on a mis en place une mesure originale, la consultation de prévention. Les explications de nouveau du docteur Philippe Robert de l'Université de Nice.
La consultation de prévention, c'est la notion que les professionnels médicaux peuvent peut-être aider la personne à bien vieillir pour ne pas aller voir le docteur ensuite. Et donc ça, c'est un travail qui se fait à Nice et en France et qui nécessite la collaboration avec des caisses d'assurance, par exemple, qui vont informer leurs adhérents de la possibilité d'avoir une consultation de prévention et peut-être même la consultation de prévention, il faut y associer le terme immédiatement d'information. C'est-à-dire que on ne va pas faire un diagnostic à ce moment-là, on va regarder quelques indicateurs de l'ordre de la mémoire, de l'ordre des comportements du sujet, de l'ordre de la façon dont il se nourrit à nouveau, de la façon dont il marche, et puis on va donner immédiatement des conseils. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas comment dire, mais c'est une dépistage-action.
Et les gens qui viennent dans ces consultations de prévention, c'est des gens qui ont déjà une plainte, qui souffrent de quelque chose, qui s'inquiètent, c'est qui ?
C'est des gens qui répondent donc à une information qui leur a été donnée par une caisse d'assurance. C'est des gens qui écoutent la radio, regardent la télévision, lisent les journaux et sont effrayés par ce qu'on dit sur la maladie d'Alzheimer.
Des gens qui ont des problèmes de mémoire, c'est souvent ça finalement, c'est le problème de mémoire, c'est la question qui vous amène à vous inquiéter.
Alors, la plainte mnésique est une des plaintes les plus importantes. Il y en a d'autres qui sont souvent évoquées aussi par les conjoints au début, dans les signes très précoces. C'est dans les domaines comportementaux, c'est le fait de s'apercevoir que celui avec laquelle on vit a moins d'intérêt, prend moins d'initiative. C'est tous des symptômes où est émoussé dans ses réactions émotionnelles. Et ça, c'est des symptômes qu'on regroupe sous le terme d'apathie et qui sont très précoces. Et donc, ça peut servir à un diagnostic. Et puis, on peut avoir une action sur ces symptômes, justement, à partir des consultations de prévention.
Le docteur Philippe Robert est psychiatre au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Cela dit, il y a prévention et prévention. Je veux dire prévention primaire, avant que la maladie n'apparaisse, et prévention secondaire pour en limiter les effets les plus néfastes. Les patients qui souffrent d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée risquent fortement de souffrir aussi de troubles psychiatriques, anxiété, dépression, psychose. Et là aussi, il y a de la prévention à faire, dit le docteur François Rousseau, qui est gérontopsychiatre à la faculté de médecine de l'Université Laval à Québec et à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec.
Actuellement, on estime, selon les études canadiennes récentes réalisées au cours des années 90, qu'environ 6 % des personnes âgées de 65 ans et plus vont développer une maladie comme la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Parmi ces gens-là, dans le cours de l'évolution de leur maladie, environ le tiers vont développer des problèmes de dépression sous différentes formes. Le tiers vont développer des problèmes d'anxiété significatifs. Et je vous dirais que de 30 à 50 % vont développer des symptômes psychotiques qui consistent en des perceptions anormales, des idées qui sont déconnectées de la réalité, qui sont pas fondées sur des faits réels et des phénomènes hallucinatoires.
Donc, ça semble assez considérable. C'est plus fréquent qu'on pourrait le penser, finalement, ces problèmes psychiatriques.
C'est tout à fait fréquent et ces problèmes font partie de l'évolution naturelle de la maladie d'Alzheimer et des maladies associées. Les études rapportent jusqu'à 90 % de prévalence ou de fréquence de ces problématiques et plus la maladie avance, plus la fréquence est élevée. Ce sont des manifestations qui sont surtout présentes au stade intermédiaire et avancé de la maladie.
Alors, docteur François Rousseau, le thème du congrès, c'est la prévention. Prévenir donc ces problèmes-là, ces problèmes psychiatriques chez des personnes qui ont déjà une démence. On a l'impression qu'on n'est pas rendu très loin, qu'on n'est pas bien ça, la prévention de ces états-là.
En fait, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer et les maladies associées en général, on connaît des facteurs de risque associés à la maladie. L'âge avancé étant le principal facteur de risque pour développer ces types de maladies-là.
Mais ça, on ne peut pas le prévenir.
Effectivement. C'est la seule justice sur Terre. Tout le monde vieillit. Alors, évidemment, on ne peut pas jouer sur ce facteur-là. Mais il y a d'autres facteurs. Évidemment, les gens qui, avant de développer cette maladie-là, qui avaient un profil de fragilité émotionnelle, qui avaient déjà un certain taux de névrotisme, névrotisme étant une hypersensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer les relations interpersonnelles, à faire face aux stresseurs dans la vie. Alors, ce sont des gens qui peuvent avoir une certaine difficulté à vivre avec une telle maladie qui se développe et peuvent être plus, je dirais, portés à développer ce genre de problème-là. Par ailleurs, les gens qui ont un niveau de scolarisation un peu moins élevé, les gens qui avaient déjà certaines difficultés d'adaptation face à la vie, les gens qui vivent une certaine tension nerveuse face à la vie en général, qui deviennent stressés facilement, pourraient avoir une fragilité plus grande aussi pour développer ce genre de problématique. Il y a d'autres facteurs aussi génétiques qui éventuellement, peut-être, dans un avenir proche, pourront être pris en compte au niveau du dépistage et pourront peut-être être des cibles thérapeutiques dans un avenir éventuel. Il y a certains gènes de susceptibilité, entre autres, pour la psychose associée à la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour d'autres problématiques.
Quand on veut faire de la prévention, on veut intervenir sur des facteurs sur lesquels on peut avoir de l'influence. Est-ce qu'il y a dans tout ce que vous décrivez, ça nous donne des idées pour faire de la prévention?
Il y a certaines données scientifiques qui suggèrent que de bonnes habitudes de vie, au niveau alimentaire, au niveau de l'exercice physique, au niveau d'un style de vie équilibré, pourraient aider à prévenir jusqu'à un certain point certaines des manifestations psychologiques qui peuvent survenir en association avec ces maladies.
Par exemple?
Par exemple, l'exercice physique s'est avéré, dans certaines études, un moyen de réduire les problèmes cognitifs et de pouvoir contrôler le stress. Les techniques de relaxation peuvent être une façon aussi d'aider à prévenir ces problèmes. Au niveau des habitudes alimentaires, les gens qui ont une diète faible en gras, riche en oméga-3, il y a certaines tendances qui nous suggèrent qu'il pourrait y avoir des bénéfices significatifs pour les problèmes cognitifs, mais aussi pour les problématiques plus de nature psychiatrique associée.
Le docteur François Rousseau est gérontopsychiatre à l'Institut universitaire de santé et dentale de Québec. Alors, on est donc en train de prendre le virage vers la prévention et c'est une bonne nouvelle. Mais pratiquement, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La réponse du neurologue Serge Gauthier.
C'est à ce congrès qu'on va définir certaines des règles de travail. Alors, les facteurs de risque, on va finaliser la liste. On va ensuite, avec une réunion des consortiums, c'est-à-dire les grands réseaux d'essais cliniques nord-américains, américains et canadiens, européens et Asie et Australie.
On va voir s'il y a un intérêt à faire une étude de 10 ans, tout le monde ensemble. En même temps, on pourra comparer les cultures, les risques génétiques qui varient un peu d'un pays à l'autre. Et c'est notre chance d'avoir, ici à Montréal, en 2009, les débuts d'une grande étude de 10 ans qui pourrait démontrer que pour les gens plus à risque d'Alzheimer, on peut intervenir de façon précoce et retarder la progression de la maladie de 5 à 10 ans.
Parce que c'est une vieille idée, ça, hein? Retardons, puis si on retarde assez, bien, les gens mourront d'autres choses, pour le dire de façon simple.
Non, mais de façon... Sur le plan socio-sanitaire, ça a beaucoup de sens. Si l'Alzheimer, en majorité, c'est à partir de l'âge de 75 ans, vous avez une espérance de vie de 10 ans. Alors, si on retarde de 5 à 10 ans le début des symptômes de l'Alzheimer, vous mourrez d'autres choses sans avoir de symptômes.
Et donc, on pourrait, je dirais pas voir disparaître l'Alzheimer, mais enfin, le voir beaucoup moins fréquent qu'on le redoute actuellement.
C'est ce qu'on souhaite et je pense que c'est réaliste. On se donne à peu près 10 ans pour le prouver. C'est pour les baby-boomers qu'on travaille actuellement le plus parce que pour eux, ça presse. Est-ce qu'il est trop tard pour intervenir chez un baby-boomer de 60 ans? Je ne crois pas. Si son risque n'est pas trop élevé par rapport à la moyenne des gens. Mais il faut qu'on commence bientôt à faire ces essais parce que la population vieillit.
On va vous dire, justement, est-ce qu'il est trop tard? On va vous dire, bon, ben, si c'est des questions de bonne, saine alimentation, de bonnes habitudes de vie, exercices et autres, s'y mettre à 60, 65, 70 ans, ça ne donnera peut-être pas grand-chose. C'est ce que vous voulez voir si, oui, ça vaut quand même la peine?
Oui, on veut prouver que ça vaut la peine et que c'est mieux que de prendre une pilule par jour.
Le docteur Serge Gauthier dirige l'unité de recherche sur la maladie d'Alzheimer au Centre McGill d'études sur le vieillissement à Montréal. Il co-présidait le congrès de l'Association internationale de psychogériatrie qui se tenait cette semaine à Montréal.
Ici Dominique Lapointe, le réalisateur des Années Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Le livre, pour terminer l'émission, le livre qui a pour titre cette semaine « Le mystère des jumeaux » qui est paru aux éditions Perrin et qui est co-signé par Marie-Noëlle Imbert, journaliste et réalisatrice, et par Nils Tavernier, cinéaste. La préface est signée par Axel Kahn, président de l'Université Paris-Descartes. Alors les jumeaux, on le sait, ont fasciné l'humanité depuis la nuit des temps. On les retrouve d'ailleurs dans les mythes fondateurs de plusieurs civilisations, Romulus et Rémus à Rome par exemple. Et ni le temps ni la science n'ont modifié cette fascination qui perdure toujours. Pourquoi cette fascination? Peut-être parce que les jumeaux, ben c'est un peu le miroir de nous-mêmes. Alors Hugues de Roussan s'est entretenu avec Marie-Noëlle Imbert qui, dans son livre, nous fait voyager dans l'univers des jumeaux qui développent entre eux une relation particulière et unique, comme si un fil invisible les reliait.
Je crois que ce qui fascine, c'est la ressemblance, bien sûr, parce que ce qui fascine, c'est surtout ce qu'on appelle les vrais jumeaux, donc les jumeaux monozygotes, qui sont issus de la scission d'un seul œuf et qui ont donc un patrimoine génétique parfaitement identique et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je crois que ça fascine parce que ça nous interroge tous sur ce qu'on est, sur notre identité. Est-ce qu'on peut être un être unique et avoir un semblable à ses côtés?
Malgré toute l'évolution de la science des dernières années, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, cette scission de l'ovule au départ. Personne n'a assisté à la chose, on ne sait ni comment ni pourquoi. C'est étonnant, non?
C'est très étonnant. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup intrigués. Donc là, on parle des vrais jumeaux, ceux qui sont issus de la scission d'un seul œuf. Donc au départ, il y a un ovule et puis une rencontre avec un spermatozoïde. Donc déjà au départ, ça peut donner des milliards de combinaisons différentes. Et puis l'une de ces combinaisons va donner un enfant. Mais dans les tout premiers jours de la vie de cet œuf, l'œuf va se scinder en deux parties. Et alors on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et fait très étrange, les statistiques sont à peu près stables. est à peu près identique dans le monde entier. Quelles que soient les cultures, le climat, la nourriture, rien ne change les statistiques des vrais jumeaux. Il y a à peu près 0,4% des naissances qui sont des naissances de vrais jumeaux. Et c'est vrai qu'on peut imaginer comment ça se passe. On peut imaginer une scission en deux parties égales, par exemple. C'est comme ça que moi j'ai voulu l'imaginer, parce que je trouvais ça poétique et puis beau. Mais certains scientifiques imaginent plutôt un petit bourgeonnement qui apparaîtrait à la surface de l'œuf et qui ensuite se détacherait de l'œuf initial. Mais personne ne sait. Donc on peut faire de la poésie ou de la science. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas.
La relation qu'établissent des jumeaux entre eux, ça ne commence pas après la naissance. En fait, il y a une véritable vie utérine qui se passe entre les deux.
Oui, ça commence bien avant. Et ça, c'est vraiment l'apport des sciences diverses depuis une trentaine d'années qui nous l'ont appris. Puisqu'au début des années 80, on pensait encore que le fœtus n'entendait pas, ne voyait pas, ne sentait pas, ne souffrait pas même, y compris les nouveau-nés qui étaient en général manipulés, intubés, etc., sans aucune anesthésie ni précaution, parce qu'on imaginait qu'ils ne souffraient pas. Leur système nerveux n'était pas achevé. Donc c'était l'idée qu'on en avait, était que c'était des petits êtres sans sensation. Et puis on a fait toute une batterie de tests depuis une trentaine d'années qui ont permis d'établir d'abord que le fœtus entend, qu'il voit et qu'il se souvient. Et c'est surtout ça qui est très frappant. Quand on fait écouter à un nouveau-né plusieurs voix, il va préférer une voix de femme. Quand on lui fait écouter plusieurs voix de femme, il va préférer celle de sa mère. Quand on lui fait écouter des voix de langues différentes, il va reconnaître sa langue maternelle. Donc il entend, il voit et il se souvient. Or on sait que toute notre mémoire est liée à nos émotions, que tous nos processus de décision sont liés à notre mémoire. Et toute cette vie-là, toute cette fabrication des sens in utero, les jumeaux la vivent à deux. Ils la vivent à deux en interaction permanente, c'est-à-dire qu'ils se touchent tout le temps, ils s'embrassent même. Et ça, c'est une des grandes révélations de ce travail, c'est qu'on a pu constater par des images échographiques des comportements qu'on interprète comme un baiser. Un des jumeaux s'approche de l'autre, pose ses mains sur ses épaules et approche ses lèvres, et il y a un contact.
Et ils se battent aussi, non seulement ils s'embrassent,
mais ils se battent. Alors ils se battent, alors ça c'est un grand débat. Est-ce qu'ils se battent ou est-ce qu'ils se touchent simplement? Oui, probablement ils se battent, parce que plus ils grossissent, plus l'espace se réduit. Quand un enfant est seul dans le ventre de sa mère, il n'a pour contact que le ventre de sa mère, le placenta et puis le cordon ombilical. Là, quand il bouge, c'est l'autre qui prend. Donc on appelle ça le syndrome de Rebecca, puisque Rebecca, dans la Bible, avait deux enfants jumeaux, Jacob et Ésaü, et qu'elle les sentait en elle se heurter.
Est-ce que c'est parce qu'il manque d'espace au fur et à mesure que les jumeaux grandissent, ou parce qu'ils sont naturellement portés l'un vers l'autre parce qu'ils occupent le même espace?
Ça, je crois que c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Chacun peut imaginer ce qu'il souhaite. En tout cas, le fait que toutes les connexions cérébrales, que toutes les sensations naissent en même temps, dans le même environnement et dans le contact permanent de l'autre, incite à penser, à imaginer, à rêver, et même incite beaucoup de scientifiques à supposer que cet environnement commun et cette formation commune créent des liens qui pourraient expliquer des phénomènes que certains appellent télépathie, mais qui n'ont jamais été prouvés comme tels, mais qui en tout cas établissent une relation très particulière entre des jumeaux. Puisque ce qui est particulier et ce qui est intéressant, c'est que tous les parents et tous les scientifiques précisent que le lien un peu étonnant qui existe entre les jumeaux est le même, que ce soit des vrais ou des faux jumeaux, qu'ils aient le même patrimoine génétique ou non. Donc la chose qu'ils ont en commun, c'est plusieurs mois de vie in utero. Pour en parler, le psychologue René Zazo, qui est quand même un des grands spécialistes de la jumélité, parlait de cordon invisible.
Ce cordon invisible, il va bien au-delà de la naissance. Certains jumeaux le vivent intensément jusqu'à leur mort, en fait.
Parfois, ça peut être un problème, parce que vivre dans cette relation très forte et très fusionnelle au-delà de l'adolescence, c'est aussi renoncer à une autre vie, à d'autres amours. René Zazo toujours disait qu'il fallait apprendre aux jumeaux à couper le cordon, comme une mère apprend à couper le cordon de son enfant.
Est-ce qu'il faut forcer cette rupture du cordon ou laisser les jumeaux le faire eux-mêmes? Parce qu'avec les années, quand ils grandissent, ils prennent peu à peu conscience de leur individualité, mais de là à assumer leur individualité, il y a quand même une marge.
C'est pas tellement les forcer, c'est surtout le comportement que peut avoir l'entourage qui va être déterminant dans la prise de conscience de soi. Il y a des éléments de développement qui sont importants à connaître. La conscience de soi, le fait de comprendre qu'on est un et qu'on n'est pas l'autre, tout le monde passe par cet élément de formation individuelle. L'enfant, au départ, tout petit, pense, croit, sent qu'il est une partie de sa mère, et puis petit à petit, il découvre qu'il ne l'est pas et qu'il est un individu autonome. Et pour les jumeaux, c'est un tout petit peu compliqué. Alors on appelle ça le stade du miroir, c'est-à-dire le moment où quand on place un enfant devant un miroir, il prend conscience que l'image qui est reflétée est la sienne et non pas celle d'un autre enfant. Il y a un petit test qui s'appelle le test de la tache, on fait une petite tache sur le front de l'enfant et le moment où l'enfant va aller toucher la tache sur le miroir, c'est le moment où il n'a pas encore pris conscience de son propre visage et de son propre corps. Et le moment où il va toucher la tache sur son propre front, où il fait le lien, où il arrive à faire cette reconstruction mentale de lui-même dans l'espace, c'est vraiment un des stades très importants du développement de la personnalité. Pour les jumeaux, c'est plus compliqué, parce que l'autre est très proche, très semblable. Mais très paradoxalement, les jumeaux ne savent pas au départ qu'ils se ressemblent, puisqu'ils ne se voient pas eux-mêmes, ils voient l'autre seulement. Donc ils sont les derniers à voir qu'ils se ressemblent. Mais là, l'importance de l'entourage est énorme, d'où les conseils, ne jamais dire les jumeaux ou les garçons ou les filles, mais toujours appeler chacun par son prénom, ne pas les habiller pareil systématiquement,
acheter des jouets différents, pas les mêmes jouets. Ouais.
Voilà, et c'est très important parce que dans le passé, c'était pas du tout ce qu'on faisait. On aimait beaucoup les habiller pareil, les faire dormir dans le même lit, etc. Vraiment en faire un couple, un binôme, une entité. On s'est rendu compte que ça provoquait une forme d'enfermement de la cellule gemellaire, parce que finalement, ils se suffisaient à eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de communiquer avec l'extérieur. Donc ça provoquait des retards de langage, donc des retards de QI, des retards de développement, et donc une autre forme d'exclusion finalement. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Mais ça, c'est revenir simplement aux choses évidentes quand on est parent, c'est que même quand on a plusieurs enfants, chacun est unique.
Retard de langage, mais aussi retard d'ouverture vers l'autre, vers l'extérieur. Et quand je parle de l'autre, ce n'est pas son propre jumeau, là, c'est une tierce personne, les autres.
Oui, absolument. Et on a des témoignages très intéressants à ce propos. J'ai rencontré un monsieur qui a une cinquantaine d'années et qui me parlait de son enfermement et de jusqu'où était allé son enfermement, à tel point qu'il avait fini par demander pardon à ses parents. Pardon de ne pas leur avoir permis d'entrer dans la relation qu'il avait avec son frère jumeau. Et à 25 ans, ils ont décidé de se séparer pour pouvoir exister individuellement. C'était une façon d'exprimer le fait que c'était tellement confortable et tellement beau, cette union, qu'aller vers l'extérieur devenait périlleux. Et là encore, on revient au rôle des parents, mais parents de jumeaux et parents d'enfants en général. Aider l'enfant à grandir pour devenir autonome, c'est quand même la base de l'éducation. Et les jumeaux nous montrent ça en énorme, comme sous une loupe. C'est-à-dire que les jumeaux nous permettent de comprendre des choses qui nous concernent tous en tant que parents, en tant qu'enfants, frères et sœurs, sur la relation entre deux êtres humains et l'importance d'accepter la différence et de se méfier des apparences. C'est-à-dire qu'une ressemblance n'implique pas une identité commune.
Ce lien invisible, on parlait tout à l'heure de presque télépathie, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuves scientifiques hors de tout doute pour que ce soit vraiment un lien télépathique. Comment ça se manifeste?
Ça se manifeste par des choses amusantes parfois. Moi, j'ai vu ça cet été avec des amis, deux petites filles. Il y en a une qui s'est retrouvée, elle ne savait pas nager. Il y en a une qui s'est retrouvée dans la piscine sans ses nageottes, donc qui a eu très peur. Et ce n'est pas elle qui a pleuré, c'est sa sœur. On a une explication scientifique, en revanche, en tout cas un début d'explication scientifique, et c'est l'empathie. Des tests en imagerie, en IRM, ont permis de démontrer que si vous placez quelqu'un face à une vidéo, par exemple, où on voit une personne en train de se couper ou de se faire mal, enfin un petit accident, mais quelque chose qui fait mal, les circuits cérébraux qui sont activés lorsqu'il y a douleur physique s'activent à la vue de la douleur d'un autre. Ce phénomène-là de l'empathie qui se produit au niveau cérébral, là encore, on revient à la vie in utero, est probablement beaucoup plus développée chez les jumeaux qui ont vécu ensemble pendant 7, 8 ou 9 mois dans le ventre de leur mère que chez deux individus l'un à côté de l'autre. On commence à expliquer ces phénomènes-là par l'empathie, une empathie qu'on commence à cerner d'un point de vue cérébral.
Est-ce que cette empathie est là pareillement dans le cas où des jumeaux ont été élevés séparément?
Alors parfois, on connaît des histoires de cet ordre-là, c'est-à-dire élevés séparément ou tout simplement séparés par la vie à un moment donné. Un jumeau peut avoir ressentir une souffrance quand l'autre, à des milliers de kilomètres de là, se fait mal. C'est des choses qu'on n'explique pas d'un point de vue scientifique aujourd'hui. Tous les tests qu'on a faits sur la télépathie n'ont strictement rien donné, y compris la CIA qui s'est beaucoup intéressée à la question. Mais ça n'a donné aucun résultat probant. Ça reste un des grands mystères de la gémellité. Ça dépasse l'empathie et ça dépasse le niveau des connaissances actuelles scientifiques. On ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que des jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui parfois ignorent même l'existence de l'autre et qui se sont retrouvés par la suite, disent souvent avoir eu le sentiment d'un manque, le sentiment d'une perte. Et ce sentiment-là, pas mal de gens en parlent. Quand on va sur Internet, il y a des forums qui abordent cette question-là. On appelle ça le syndrome du jumeau fantôme. L'impression d'avoir eu quelqu'un avec soi et qui a disparu. Certains généticiens un généticien américain en particulier, donne des statistiques qui seraient de l'ordre de 15 à 20% d'entre nous qui auraient effectivement vécu avec un frère jumeau ou une sœur jumelle qui aurait disparu bien avant la naissance. Et on ne sait pas lesquels d'entre nous font partie de cette population-là. Mais en tout cas, beaucoup de gens parlent de ce sentiment d'absence.
Quand ils grandissent, on dit qu'il y a des jumeaux qui deviennent des jumeaux amoureux. Donc, ça veut dire qu'ils sont incapables de se passer l'un de l'autre. Il y a des jumeaux ennemis qui sont incapables d'être dans la même pièce. Et il y a aussi des jumeaux miroirs.
Jumeaux amoureux, jumeaux ennemis, je crois que là, on est toujours dans cette notion de comment exister différemment par rapport à l'autre. Je crois que c'est les deux formes de comportement qui sont liées à une même problématique, qui est de trouver sa différence et de l'assumer, de l'accepter d'abord, hein, d'accepter d'être différent de l'autre. C'est pas toujours évident. Les jumeaux en miroir, c'est autre chose. Les jumeaux en miroir, ça concerne un couple monozygote sur cinq, donc c'est quand même beaucoup. L'un est droitier et l'autre est gaucher. Alors c'est très mystérieux, puisqu'ils ont exactement le même patrimoine génétique, ils sont issus exactement du même œuf, et pourtant ils ont une caractéristique importante qui est la latéralité, qui n'est pas la même. Alors ça peut même se traduire par d'autres choses qu'on voit moins, mais que des scientifiques ont observées. Ça peut être des taches de rousseur qui sont les mêmes au même endroit, mais en miroir, c'est-à-dire l'un à droite et l'autre à gauche. Ça peut être le sens dans lequel les cheveux tournent, ce qu'on appelle le tourbillon capillaire, qui va être inversé. Ça peut être la taille des yeux. Vous savez qu'on est tous asymétriques, on a tous un œil un petit peu plus petit que l'autre. Ben, pour l'un, ça sera le droit. Pour l'autre, ça sera le gauche. Et ça peut même être certains organes qui peuvent être inversés.
Chez les jumeaux miroirs, il y a même presque un miroir du comportement. Quand on pense par exemple à ces deux joueurs de tennis, les frères Bob et Mike Bryan, ils jouent l'un avec l'autre, ne se parlent pas, ne se regardent pas, ils font les gestes absolument symétriques. Et lorsqu'ils jouent l'un sans l'autre, ils sont des joueurs moyens, alors qu'ensemble, ils sont des champions du monde.
Oui, ouais, ce sont d'excellents joueurs en double et d'assez médiocres joueurs individuels. Oui, c'est vrai que c'est très saisissant d'assister à un de leurs matchs et c'est très amusant aussi parce que les commentateurs se raccrochent justement au fait que l'un est droitier et l'autre est gaucher pour les identifier parce que je crois que sinon il n'y aurait vraiment aucun moyen de le faire. Cette forme de communication sans parole qui est très visible sur le court quand on les regarde jouer est aussi assez sensible dans beaucoup de couples gemellaires. On est même allé jusqu'à parler de cryptophasie, d'un langage secret. On a constaté des mots qui n'avaient de sens que l'un pour l'autre, des gestes qui parlaient à l'un mais à personne d'autre. Ce langage particulier, ce langage des jumeaux, c'est quelque chose qui nous reste totalement inaccessible. Comme la vie intra-utérine nous reste encore grandement inaccessible, ça fait partie de leur jardin secret, d'une proximité, d'une immense proximité qui est assez belle à voir.
Est-ce qu'être jumeau, c'est une bénédiction ou une malédiction aujourd'hui?
Ah, ça, je crois que c'est à chacun d'y répondre, parce que ce que nous apprend aussi un travail sur les jumeaux, c'est que chaque histoire est particulière. Donc, je crois que c'est à chacun d'y répondre.
Je rappelle le titre du livre, Le mystère des jumeaux. Il est coécrit par Marie-Noëlle Imbert et Nils Travernier. La préface est signée par Axel Kahn. Le livre est édité aux éditions Perrin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Imbert.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique aujourd'hui Michel Potvin. Les journalistes Hugues de Roussan, Chantal de Srivastava et Gaëlle Lucia Berdou, que nous remercions pour les belles semaines qu'elles viennent passer avec nous. Journaliste au site internet Lily Marin, chroniqueur Hervé Fischer. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à notre antenne et à dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.